France Musique.
Brut d'accordéon, le podcast France Musique.
J'ai pleuré pendant près de 3 ans pour ne pas apprendre l'accordéon.
Il y en a même qui m'ont carrément engueulé en me disant « Tu nous as laissé tomber, t'es plus des notes, tu es devenu un snob maintenant que tu veux faire que des concerts. »
Le compliment sublime, c'est de dire « Oh, on dirait pas de l'accordéon. » Moi, je le prends très mal quand on me dit ça.
Vous l'entendez, cette petite boîte à musique ? Celle-là même qui se fait entendre sous le ciel de Paris. Non, je ne veux pas parler de cette véritable boîte à musique, mais de celui que nous aurons surnommé tour à tour le piano à bretelles, le piano du pauvre, le branle-poumon, mais aussi la boîte à frissons, la boîte à chagrin ou la boîte à punaises. Dans cette première série de podcasts Brut d'accordéon, je vais vous raconter une relation passionnelle, une véritable histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, l'histoire qui unit depuis plus d'un siècle la France et mon instrument, l'accordéon. Première série, l'accordéon mis en boîte, une passion française. Premier épisode, la boîte de Pandore ou le difficile combat d'un immigré pour se faire accepter.
Comment ? On nous dit que quelqu'un a tenté d'ouvrir la boîte de Panda. Pauvres insensés. Vous savez ce que cela veut dire ? Vous n'avez pas la moindre idée des merveilles que nous encourons. Et puisque c'est comme ça, nous allons vous révéler ce qu'il y a dans cette boîte. Cependant, vous êtes prévenus. Une fois ouverte, il vous sera impossible de revenir en arrière. Impossible de revenir en arrière. Impossible de revenir en arrière.
Alors, si vous le voulez bien, ouvrons ensemble cette boîte de Pandore. Première surprise. Il nous faut quitter la France, direction l'Autriche, car contrairement à de nombreuses idées reçues, ce n'est pas à Paris ni même dans l'Hexagone que la fabuleuse histoire de l'accordéon a commencé. C'est du côté de Vienne que nous devons chercher. Quoi de mieux que la musique de Schubert pour voyager de Paris à Vienne ? D'autant plus que notre périple est à la fois un voyage dans l'espace et dans le temps. Nous sommes au cœur de la capitale autrichienne en 1829 précisément. Schubert vient d'ailleurs de disparaître, ici même, il y a quelques semaines seulement. Raison de plus pour entendre sa musique réarrangée par le compositeur Bernard Cavana pour la voix d'Isa Lagarde, le violon de Noémie Schindler, le violoncelle d'Atsushi Sakai et l'accordéon d'Anthony Millet. Nous voilà donc arrivés à Vienne en cette année 1829 et nous avons rendez-vous avec un Viennois du nom de Cyril Demian. Il est accordeur de piano et travaille depuis plusieurs mois sur un prototype d'instrument tout nouveau, un truc assez génial soi-disant. Voici ce qu'écrit Demian pour décrire son invention. C'est une petite boîte sur laquelle sont fixées des lamelles métalliques ainsi qu'un soufflet, et ceci de façon à le manier facilement. Peuvent y être interprétées des marches, des chansons, des mélodies, même par un ignorant en musique après un court apprentissage. Voilà qui promet d'être pratique, mon cher Cyril. Vous l'aurez compris, pour ceux qui ne le savaient pas encore, Cyril Demian n'est autre que l'inventeur de l'accordéon. Il dépose le brevet de son petit instrument le 6 mai 1829 et le nomme accordéon. Alors il ne faut pas imaginer que l'accordéon de Demian ressemble encore complètement à l'instrument que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un accordéon joué. Il comporte uniquement un clavier main droite muni de quelques touches. Chaque touche permet de jouer un accord parfait lorsqu'elle est enfoncée et qu'on actionne le petit soufflet. Il n'empêche, ce nouvel instrument va rapidement se propager un peu partout en Europe. Alors il est temps de rentrer à Paris. Paris, 1830. Hector Berlioz travaille avec acharnement dans son appartement parisien. Il compose sa symphonie fantastique dont nous entendons ici le deuxième mouvement, un bal, arrangé et enregistré en 2022 par les quatre accordéonistes du quatuor Aeolina. Berlioz travaille, mais un son lui chatouille les oreilles. Un petit instrument à souffler se fait entendre dans l'appartement de sa voisine. Elle vient de l'acheter et elle en raffole. Lorsqu'elle fait salon avec ses amis, entre deux gorgées de thé ou de café, elle chantonne quelques mélodies à la mode en s'accompagnant de ce qu'elle nomme l'accordéon. Car oui, dès les années 30, 1830, l'accordéon de Demian investit Paris comme la plupart des capitales européennes. Et son premier usage est d'être le compagnon des dames de la noblesse et de la haute bourgeoisie. À Paris, on trouve quelques artisans qui fabriquent des accordéons, dans leur cave, chacun à leur façon. Ils copient l'accordéon de Demian en lui apportant des modifications tout azimut. Certains instruments ne jouent plus des accords précomposés, mais sont pourvus d'un clavier mélodique. On modifie la forme des touches, de la caisse. On prend grand soin de son décor, parfois réalisé en marqueterie. Mais malgré la présence de l'accordéon, son âge d'or n'est pas encore venu. Il n'est pas encore l'accordéon que nous connaissons. Pour cela, il faut attendre des transformations radicales qui vont lui être apportées non pas à Paris, mais de l'autre côté des Alpes, en Italie. La mandoline de Vincent Bert Demandeur et l'accordéon de Grégory Daltin dans cette Provencia, extraite de la suite populaire signée Vladimir Cosma, une pièce composée récemment et enregistrée par le duo en 2020. Mandoline et accordéon, voilà deux instruments qui sentent bon l'Italie. Pour la mandoline, c'est assez limpide. Pour l'accordéon, vous allez comprendre. En 1863, dans le petit village de Castelfidardo, situé à quelques kilomètres d'Ancône, un jeune Italien du nom de Paolo Soprani va fonder la première manufacture d'accordéons et cela va changer le cours de l'histoire de notre instrument. À partir de cette date, la fabrication artisanale de l'accordéon va cesser petit à petit et des usines vont voir le jour. Beaucoup en Italie, puis plus tard en France et en Allemagne. L'accordéon va considérablement se transformer en l'espace de quelques années. On lui ajoute un clavier main gauche, on invente le clavier touche-bouton et le clavier touche-piano. Paolo Soprani lui-même invente l'accordéon chromatique alors que jusqu'à la fin du 19e siècle, les accordéons sont tous diatoniques ou bisonores. Dans les années 1890-1900, l'accordéon ressemble enfin à l'instrument que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là qu'il va faire un retour fracassant en France, à Paris. En ce tout début du XXe siècle, Paris ne vit pas encore au son de l'accordéon, mais au son de la musette ou cabrette auvergnate. Nous entendons d'ailleurs un des célèbres cabrettaires auvergnats de l'époque, Martin Kella, dans cette bourrée des familles. Les Auvergnats sont arrivés en nombre dans la capitale ces dernières années. Révolution industrielle oblige, ils ont choisi de quitter leurs fermes et leurs campagnes pour venir s'installer dans le quartier populaire de l'époque à Paris, un peu l'ancêtre de ce qu'est aujourd'hui la Seine-Saint-Denis, le quartier Bastille. Les Auvergnats ont apporté avec eux dans leur bagage ce petit instrument typique de leur région qu'on appelle la musette ou la cabrette. Il s'agit d'une sorte de petite cornemuse composée d'un sac de cuir et d'un petit soufflet actionné avec le coude. Rapidement, les cabrettaires auvergnats vont faire danser tout Paris, ils deviennent l'âme de la capitale. Mais c'est sans compter sur une concurrence qui va déferler bientôt en provenance d'Italie. Nous entendons ici Charles Péguri dans une valse de sa composition « Reproche » enregistrée en 1920. Charles et ses deux frères, Michel et Louis, sont les pionniers de l'installation de l'accordéon dans l'Hexagone. Ils sont tous les trois les fils de Félix Péguri, un Italien fabricant d'accordéons. Il se trouve qu'au tout début du XXe siècle, comme de très nombreuses familles italiennes, les Péguri quittent leur Piémont natal pour la France. Les Auvergnats avaient débarqué à Paris quelques années plus tôt munis de leur cabrette. Eh bien, les Italiens arrivent, eux, avec dans leur bagage cet instrument devenu très populaire de l'autre côté des Alpes, l'accordéon. Le problème, c'est que les Auvergnats, rois des bals à la musette parisiens, ne vont pas du tout s'enchanter au départ de l'arrivée des Italiens et de leurs accordéons. Le chef des cabrettaires auvergnats s'appelle Antoine Buscatel. Il est le propriétaire du bal Busca, situé rue de Lappe, à quelques pas de la place de la Bastille. Il va rassembler ses troupes et mener la fronde, non au bal à l'accordéon. C'est une concurrence rude qui s'installe alors dans les faubourgs parisiens. Busca et ses hommes défendent les bals à la musette, Charles Péguri et ses compatriotes italiens fraîchement débarqués ici rencontrent le succès avec leurs bals à l'accordéon. C'est finalement une histoire d'amour qui va vaincre ce conflit musical et populaire. Charles Péguri va rencontrer la fille d'Antoine Buscatel, Eugénie. Il en tombe follement amoureux et la demande en mariage. Le vieux Buscatel réfléchit, il se méfie, un Italien quand même. Mais il finit par reconnaître tout le talent de Charles Péguri et consent à cette union. Le mariage de Charles Péguri et d'Eugénie Buscatel est célébré le 27 mai 1913. Il scelle la fin du combat entre Italiens et Auvergnats, entre les bals à la musette et les bals à l'accordéon, qui dorénavant s'appelleront les bals musettes.
Avancez vos cavaliers, vous allez un peu tout, en place pour la deuxième.
À partir de là, les cabrettaires auvergnats et les accordéonistes italiens vont jouer ensemble. Nous en avons ici une illustration, un enregistrement de 1930 réunissant le fameux Antoine Buscatel à la cabrette et l'accordéoniste Fredo Gardoni. Alors vous remarquerez qu'on est encore loin de ce qui va devenir le style musette. Les choses vont évoluer peu à peu. Les accordéonistes s'émancipent petit à petit de la tutelle des cabrettaires auvergnats. La technique instrumentale de l'accordéon se développe et le vrai tournant vers le style musette s'opère avec l'arrivée d'un musicien prodigieux du nom d'Émile Vacher. Émile Vacher est né à Tours le 7 mai 1883, mais il arrive tout jeune à Paris avec sa maman. Il va apprendre l'accordéon et se révéler particulièrement doué pour cet instrument. Il fait le tour des bistrots parisiens armé de son piano à bretelles pour gagner quelques sous. C'est là, aux alentours de 1905, qu'Émile Vacher rencontre les frères Péguri. Ensemble, ils vont écrire une page sans pareille de l'histoire de l'accordéon en France en inventant véritablement le bal musette. Nous entendons donc ici le père du musette, Émile Vacher, dans cet enregistrement de 1927 d'une de ses compositions, Plaisance Fox. Car oui, non seulement Vacher est un interprète, mais il va aussi composer, énormément composer pour l'accordéon. Il faut écrire des danses que les clients puissent danser et il se trouve que parmi eux, il y a beaucoup d'immigrés. Alors on va écrire des passodobles pour les Espagnols, des polkas et des mazurkas pour les Polonais, des tangos pour les Argentins, des foxtrots pour les Américains, etc., etc. Toutes ces danses sont aujourd'hui encore constitutives du répertoire d'un bal musette. Un répertoire internationalisé du fait du caractère cosmopolite de la vie parisienne du début du siècle dernier. Reste quand même une danse typiquement française, la danse reine de la discipline à cette époque. Ce n'est pas encore la valse musette, mais c'est la java. C'est un autre virtuose de l'époque, Verschuren Marceau, que nous écoutons dans cette java célébrissime de sa composition, Sagaz, enregistrée en 1929. À l'écoute de Marceau, on mesure le développement de la technique instrumentale sur l'accordéon. Elle est phénoménale en l'espace de quelques années seulement. Bien sûr, les questions de facture instrumentale sont une des explications de ce bond en avant considérable. Les accordéons sont de plus en plus complets et ergonomiques. Leurs claviers s'assouplissent, leur mécanique se perfectionne. En revanche, leur poids augmente énormément. Mais si la technique des accordéonistes évolue si vite, c'est aussi et surtout dû au travail des premiers virtuoses et des premiers pédagogues de cet instrument. Parmi eux, il en est un qui occupe une place capitale. Médard Ferrero. Ferrero, que nous entendons ici dans une de ses compositions, Mazurka Fantasy, enregistrée en 1932, est à la fois un interprète à la virtuosité ébouriffante et le premier pédagogue qui s'est penché sur la question de l'enseignement de l'accordéon. Il est né en 1906 à Marseille. Médard va tout au long de sa vie composer pour notre instrument, mais aussi écrire des méthodes d'accordéon, des ouvrages qui, aujourd'hui encore, font référence. Ferrero sera entre autres le professeur de deux géants de notre instrument, Marcel Azola et Joé Rossi, deux musiciens dont nous reparlerons évidemment dans nos prochains épisodes. Les bals musettes devenant en l'espace de quelques années l'âme de Paris. La technique des accordéonistes étant de plus en plus flamboyante, cela va vite donner l'idée à un autre répertoire très en vogue à l'époque de s'approprier l'accordéon. C'est bien entendu celui de la chanson française.
J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chipée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollo, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît.
L'inimitable Fréhel, accompagné par son indéfectible accordéoniste Maurice Alexander, dans ce succès à faire rougir les féministes d'aujourd'hui, tel qu'il est.
On n'en voit plus que la moitié, il n'a pas un seul poil sur la tête. Mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît.
Voilà que l'accordéon s'immisce donc dans le répertoire de la chanson, et disons-le tout de suite, ce n'est qu'un début. À Paris, dans les années 1910-1920, les accordéonistes vont se multiplier. Nous avons évoqué les frères Péguri, Fredo Gardoni, Émile Vacher, Verschuren Marceau, Médard Ferrero, Maurice Alexander. Mais je pourrais citer Adolphe Deprince, Jean Vessade, Édouard Duleu, Louis Ferrari ou encore Mimile Prudhomme. Émile Prudhomme, une véritable star de son époque et, paraît-il, un mauvais garçon. Thank you. C'est en 1936 qu'Émile Prudhomme et son orchestre enregistrent cette chanson signée Georges Van Paris. On reconnaît entre tous le toucher surpiqué de Prudhomme, mais aussi son sens de la cadence que les danseurs aimaient tant. Avec Mimille, ça tournait.
C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon.
Nous voilà presque arrivés au terme de l'exploration de notre boîte de Pandore. En ce tout début de XXe siècle, le piano à bretelles a indéniablement su s'installer dans l'Hexagone. Le petit instrument joué a bien grandi. Cet immigré, mi-autrichien, mi-italien, a su faire chavirer le cœur des Parisiens et des Français. Même si les Auvergnats ont été les plus durs à convaincre, l'accordéon a su se frayer un chemin plein d'espoir, engendrant la création d'un répertoire multiculturel et métissé, le musette. Car oui, il s'agit bien d'une première forme de ce que l'on nommera plus tard les cultures urbaines. Alors prenons encore quelques instants. Écoutons la Java qu'Édith Piaf fredonne tout bas. Suivons le jeu nerveux, les doigts secs et longs du grand Gus Viseur.
La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique.
La môme Piaf chantant l'accordéon, nous sommes en 1940. Et ce jour-là, derrière Édith, c'est donc l'immense Gus Viseur qui tient l'accordéon.
Les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java. Les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez! Arrêtez la musique!
Quand on entend la voix de Piaf et l'accordéon de Gus Viseur porter avec tant d'ardeur cette chanson mythique signée Michel Aimer, on ne peut qu'être convaincu qu'il est temps pour l'accordéon d'aller au-devant des immenses succès populaires qui l'attendent. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre prochaine boîte, la boîte à frissons. Mais pour l'heure, il nous faut clore ce premier épisode, expirer une dernière fois pour refermer notre boîte de Pandore. Cet épisode a été concocté avec le concours de Patrick Lérissé à la réalisation, Alison Ascrisi à la technique et Marie-Christine Ferdinand, notre attachée de production. Rendez-vous sans plus attendre sur le site ou l'application Radio France pour découvrir le chapitre suivant de notre série, notre épisode 2, La boîte à frissons. Du musette à la chanson française, nous plongerons ensemble dans le temps des grands succès populaires de l'accordéon. Alors à très vite.
À réécouter sur francemusique.fr.